Star Wars en direct vous est présenté par SiteClan.net, MintInbox.net, StarWarsUniverse.com et CamuliWeb.com.
A long time ago, in a galaxy far, far away.
This station is now the ultimate power in the universe.
Well, how could they be jamming us?
A communications disruption can mean only one thing.
Star Wars on the record.
Yes, the voice of Star Wars fandom. The show informs us and entertains us, and it binds the fans together.
Begun the Clone War.
Bienvenue à tous à Star Wars en direct, édition de mars 2009, notre 82e émission. Vous pouvez, comme d'habitude, nous contacter à studio@swendirect.com et nous laisser un message sur notre boîte vocale Skype à l'usager SW en direct. Bienvenue à nos collaborateurs cette semaine, Jean-François de SiteClan.net. Salut Jean-François.
Bonjour.
Raphaël de MintInbox. Bonjour Raphaël.
Bonjour Danny, bonjour tout le monde.
Henri de Camille Web.
Salut, salut.
Et non le moindre, Louis de StarWarsUniverse.com. Bonjour Louis.
Salut à tous.
Donc, comment a été votre dernier mois côté Star Wars, autrement dit, nouveautés, achats ou lecture, etc. Peut-être commencer avec Jean-François.
Moi, c'est surtout le rattrapage de lecture. Les derniers mois, le travail, j'ai pas eu le temps de me mettre à jour côté les derniers romans. Donc, c'est ce que j'ai fait depuis Noël. Là, je me rattrape dans mes livres.
OK. Et puis ensuite, Henri?
Ben, moi, j'ai pas tellement lu. Enfin, j'ai fini Coruscant Knights 3. J'ai lu le... Sinon, il n'y a pas eu tellement une sortie, donc il n'y a pas tellement de trucs à acheter. Donc, ça se résume avec Coruscant Knights 3, le dernier Star Wars BD en magazine, c'est un peu tout. Quoi.
C'est relativement mort, en effet. Ouais. Toi, Raphaël?
Ben moi, il y avait pas peu de produits. Il y avait des produits qui étaient disponibles, mais toujours en attente de produits nouveaux, en fait, puisque c'est un peu toujours des Hasbro. Et nos produits qui devraient arriver sont un peu onéreux, donc je pense que mes achats vont surtout se déclencher cet automne.
D'accord. Et puis toi, Louis, outre ton déménagement, est-ce qu'il y a eu quelque chose entourant Star Wars depuis la dernière émission?
Ah ben, il y a toujours mes comics, parce que comme je dois me tenir à jour pour ma collection, donc le dernier tome de La Légende du Jedi et le dernier tome de X-Wing Rogue Squadron aux éditions Delcourt, que je vous commenterai tout à l'heure.
Excellent. Pour ma part, un peu comme Henri, j'ai terminé il y a quelques jours à peine Coruscant Knight 3, Pattern of the Force. Et puis plus personnellement, j'ai continué à écrire mon audio drama Star Wars. Donc, espérons-le, je vais pouvoir terminer l'écriture bientôt pour pouvoir commencer la production parce que c'est plutôt long à créer. Donc, on va commencer immédiatement avec les actualités. On va commencer avec Jean-François et tout ce qui est en rapport aux jeux vidéo. Donc, qu'est-ce que tu as à nous mentionner, Jean-François, qui est pour une rare fois en direct?
Oui. La première nouvelle qui a annoncé, c'est que le jeu Battlefront 3 a changé encore de compagnie. Donc, on sait qu'avant, c'était la compagnie Free Radical qui travaillait sur le jeu, mais là, Free Radical ont fermé leurs portes, donc ça a été transféré à Rebellion. Mais vu que Rebellion sont très occupés à travailler sur le jeu Aliens vs Predator 3, le jeu a été transféré à Pandemic, qui est la compagnie qui a fait les deux premiers jeux. Cependant, un des producteurs, Matthew Everett, qui est un des managers de Pandemic, a juste confirmé que le jeu n'était pas encore chez Pandemic, mais qui est en négociation avec LucasArts.
On va-tu le voir un jour, ce jeu-là?
Je sais pas. Mais moi, j'avoue que je suis un peu déçu que ça soit retransféré à Pandemic, parce que je trouve que le premier était bon, le deuxième, c'était pareil au même, donc peut-être qu'avec une autre compagnie, il y avait une chance de remettre un peu de renouveau, parce qu'avec tous les jeux qu'on peut jouer multijoueur maintenant sur les consoles et tout, ça va être très dur pour Battlefront de faire sa place.
Mais c'est quoi qu'il y avait comme annonce dans le sens dans le premier c'était vraiment trilogie classique dans c'est vrai il y avait Jaune 6 dans le premier, dans le deuxième c'était beaucoup plus prélogie j'imagine. J'ai jamais joué au deuxième. Ça.
Le deuxième, c'était un peu comme le premier, c'est juste qu'ils ont rajouté plus de cartes, plus de différents personnages qu'on peut utiliser. Ils ont introduit les Jedi, d'accord, que le monde pouvait contrôler, les vaisseaux. Donc, c'était plus juste un jeu de combat terrestre. Là. C'était rendu que tout le monde pouvait avoir des vaisseaux, puis tu pouvais prendre le contrôle des Jedi. Fait que si tu prenais le contrôle des Jedi, ben si toi, t'étais juste un petit Stormtrooper, tu pouvais plus rien faire.
T'avais pas de chance. Et puis dans le 3, est-ce qu'il y avait des trucs qui avaient été annoncés? Je sais qu'il y avait un démo en ligne ou quelque chose qui avait été mis en ligne, mais ouais. Est-ce que ça représentait ça, c'était la version quand c'était chez Free Radical, c'est ça?
Oui, exactement. Non, il n'y a pas eu d'annonce. Le jeu n'a jamais été annoncé officiellement. C'est juste que Free Radical, eux, ils travaillaient sur le jeu pendant plus d'un an avant qu'ils ferment leur pas. Mm-hmm. Ça faisait plus d'un an qu'ils travaillaient sur le jeu. Puis côté de ce qu'on peut voir des vidéos, de la vidéo qui était sur Internet, ça ressemblait pas mal à Battlefront 2.
Okay.
C'est dur à dire, la qualité d'image n'était pas écœurante non plus, donc on peut pas vraiment juger, mais on a vu des concepts du jeu un peu comme on voyait un Dark Obi-Wan là, qui était comme Sith et tout. Là, donc je sais pas ce qu'il allait exactement avec ça, on ne saura jamais. Finalement.
Mais j'imagine que c'était pour les consoles nouvelle génération quand même, donc la différence devait être ça.
Ouais, c'est ça. J'imagine que ça serait sûr que si le jeu sort, ça va sûrement être PS3, Xbox 360 puis PC aussi sûrement.
Peut-être espérer pour vous que la Wii ne soit pas dans la liste si vous voulez que ça sorte au plus vite.
Ça veut dire quoi?
Ben moi je préfère la Wii, mais c'est parce que The Force Unleashed avait comme retardé la sortie à cause de la version Wii, donc
résultat c'est la meilleure.
Ouais, en effet. Ben bon. J'avoue que Battlefront 3 avec le Wii Zapper ou quelque chose que tu peux tirer à l'écran, là, ça serait vraiment cool. Mais t'aurais pas le multijoueur. Ou très peu. Fait qu'il faudrait voir. Enfin, est-ce qu'il y a autre chose comme...
La Wii n'a pas le réseau de la Xbox 360, non, 360 de la PS3 là, en ligne.
C'est ça, c'est plutôt ordinaire pour qu'est-ce qu'il y a en ligne sur la Wii présentement. Est-ce qu'il y a autre chose comme nouvelle?
Ah ben là, vous me l'avez appris plus tôt, il y a une nouvelle vidéo pour le jeu The Old Republic qui s'appelle The Story and Setting. La vidéo, elle explique un peu à quelle période le jeu se déroule. C'est quoi l'atmosphère politique et tout, la guerre entre les Sith et les Jedi, et ça explique aussi un peu les classes que les personnages, que les joueurs vont pouvoir prendre. Donc on sera pas obligé de jouer un Jedi ou un Sith, si on veut être un chasseur de primes, ça va être disponible aussi comme option. Puis chaque type de, pas de classe, mais de personnage, que ce soit un Jedi, un Sith ou un chasseur de primes, ils vont avoir différentes classes, et donc une histoire différente pour chaque classe.
C'est ça. Il mentionnait qu'il y avait d'autres classes en développement, je pense, mais qu'il les dévoilait pas encore, dans le fond.
Non. Ben, j'imagine qu'il va sûrement avoir un genre comme un smuggler ou peut-être un pilote. Peut-être qu'on va être pilote, je sais pas. Le jeu, il est pas prêt de sortir encore.
Non, j'imagine. Il mentionnait aussi que le début de l'histoire, probablement quand on va commencer à jouer, c'était comme une invasion de Coruscant, comme les Sith attaquaient Coruscant, puis on voit comme on voit des concept drawings, là, des dessins concept, puis on voit aussi une scène qu'on voit le Sénat, donc j'imagine que ça peut être assez intéressant. Je sais pas si t'as remarqué, il y avait une espèce de concept que tu voyais comme des milliers de Jedi et Sith se battre comme ça. C'était assez impressionnant, puis la BD. Ils ont commencé, je pense, les BD en comics. Peut-être que Louis pourrait confirmer, malgré que le dernier mois, t'as pas été très très en ligne, Louis, là. Mais le comic montre un peu l'invasion de Coruscant, le webcomic qui est gratuit de The Old Republic.
Ouais, et... donc le nouveau numéro Threat of Peace là, qui est apparu cette semaine.
Mm-hmm. Donc c'est plutôt simple comme BD, mais on voit qu'il y a une petite invasion là. Donc j'imagine que ça va vraiment lier avec le début du jeu. Mais on n'a pas eu d'annonce, comme tu dis, donc... Penses-tu que ça va être cette année?
Si on regarde les vidéos du jeu comme tel, j'espère que non. Je sais pas, je suis peut-être le seul, mais je trouve ça la qualité d'image, la qualité graphique, ça a l'air vraiment de genre la ancienne génération, PS2, Xbox, là, ça a pas l'air... Je sais que c'est pour PC, mais éventuellement, ça va sûrement aller soit sur PS3 ou Xbox 360. Là.
Mm-hmm.
Mais... Non, moi, d'après moi, ça sera pas au moins avant l'année prochaine. Parce que BioWare, je sais qu'ils sont très occupés aussi avec le jeu Mass Effect, donc mm-hmm. Je sais pas.
Le E3, est-ce que c'est en mai, ça, hein, si je me trompe?
C'est juin, je crois, c'est juin. Année.
Donc, ouais, on va sûrement avoir plus de nouvelles d'ici là. Ben, à cette conférence-là.
Ouais.
Bon, ben, merci beaucoup, Jean-François.
Que c'est tout.
Donc, on va poursuivre avec Louis et tout ce qu'il y a eu de nouveau du côté comics. Donc, Louis, la parole est à toi.
Alors, côté comics, on va aller très vite, parce que de toute façon, il faut aller vite, et que sinon, Danny va me frapper.
D'abord, il est 18h15, donc, il est 18h15, à 18h30, t'as fini, je compte, hein. Vas-y.
Et c'est qui met la pression? Bon, c'est pas moi. C'est pas moi.
Vite, vite, dépêchons-nous, vite. Et Danny qui nous court derrière avec un fouet.
C'est peut-être plus Raphaël dans ce cas-ci. Là, j'ai dit c'est plus Raphaël qui te pousse là.
Bon, alors du côté des Américains, ouais. C'est prévu en mars la sortie de KOTOR 39, Dueling Ambitions, la partie 1, 2, 3. Legacy 34, Storms, la première partie sur deux. En avril, The Clone Wars 5, Slaves of the Republic, la partie 5 de 6, et le Dark Times 13, Blue Harvest, la partie 1 de 5. Le KOTOR 40, Dueling Ambitions, partie 2 de 3. Legacy 35, Storms, la deuxième partie.
Mm-hmm.
Et Star Wars Adventures, Han Solo and the Hollow Moon of Korea. Pour aller vite, parce qu'il faut aller vite, on va parler en vitesse des dernières news, les sollicitations pour juin. Mm-hmm. Donc les derniers synopsis qu'on a eus, donc qui sortiront le KOTOR 42, Mask, le scénario de John Jackson Miller, les dessins de Ron Chan. Le synopsis. Quand une dispute entre l'ex-padawan Zen Karik et la mystérieuse Jarael la laisse indécise sur sa place dans la vie de Zen, l'apparition du Jedi Malak menace de la détourner de Karik pour de bon. Pourtant, Malak n'est pas le seul à montrer de l'intérêt pour Jarael. Jusqu'où est prêt à aller le Mandalorien Rolan pour rester à ses côtés, il n'a jamais été révélé, jusqu'à maintenant.
Est-ce qu'il y a une limite? Excuse-moi, Louis, tu parlais de KOTOR, t'es rendu au numéro 40 quelque. Est-ce qu'ils ont prévu une fin à cette série-là ou c'est
Je pense pas. Ce qui est pratiquement sûr pour l'instant, la série est vraiment censée couvrir les guerres mandaloriennes. Mm-hmm. Ce qui me fait peur, c'est que je pense qu'elle va s'arrêter simplement à l'avènement de Revan et de Malak.
D'accord. Pour relier les jeux vidéo.
Voilà, j'espère pouvoir voir la grande bataille finale des guerres mandaloriennes.
D'accord.
Ce qui n'est pas sûr, mais bon, là maintenant, vous voyez, on parle même plus de Squint, mais on parle de Malak. Donc déjà, il a bien changé, il a déjà ses tatouages, son crâne rasé.
Mm-hmm.
Donc après, Dark Times 15, Blue Harvest, la partie 3 de 5, du scénario Mick Harrison et les dessins de Doug Whiteley. Le synopsis, pris entre deux factions rivales, l'ancien Jedi Dash Jemir n'a plus qu'une solution, monter chaque camp l'un contre l'autre, en espérant qu'il ne se rende pas compte de son plan. Et enfin, pour terminer, de ce côté des Amériques, le Legacy 37, Tatooine, la partie 1 de 4, des scénarios de John Ostrander et des dessins de Jan Dersema, du grand classique. Synopsis, lorsque le Moff Nina Calixte apprend que des convois impériaux sont attachés par des pirates du Soleil Noir, elle envoie sa fille, Gunner Yag, et son escadron d'élite pour intervenir. Mais aucun d'entre eux ne sait que les pirates eux-mêmes subissent l'assaut d'autres pirates, Cad Skywalker et l'équipage du Minhok. Malgré sa victoire contre l'empereur Darkrai, Cad est toujours l'ennemi public numéro 1 de la galaxie. Cela démange l'escadron de Gunner de le descendre. Donc voilà ce qu'on pouvait dire du côté des Amériques. Nous passons très très vite, sinon on va se faire fouetter du côté Europe, avec les prochaines parutions. Donc ce mois-ci, on a eu le X-Wing que je vais vous commenter. Pour avril, ce qui est prévu, pour le 8 avril, enfin le numéro 1 de Vector, des dessins de Doug Whiteley et le scénariste Mick Harrison. Il est prévu aussi pour le 22 avril le deuxième tome de Infinities, l'Empire contre-attaque. Et possible, mais pas certain, parce que c'est Henri qui m'a dit ça, et que ça a été repoussé, le troisième hors-série de la saga en BD. Toujours est-il que je tiens quand même à féliciter Delcourt pour leur rapidité de nous permettre de découvrir Vector aussi rapidement, c'est vraiment plaisant. Qui permet de pas aller fureter directement dans les épisodes en anglais. Ça fait bien plaisir. Donc on va passer aux deux critiques du mois. Donc le premier, La Légende des Jedi et les Seigneurs des Sith, Tales of the Jedi, Dark Lord of the Sith, qui était déjà édité chez Dark Horse, comme les précédents. Donc c'est un épisode qui est beaucoup plus plaisant que le dernier. Le scénario est signé Tom Veitch et Kevin G. Anderson. Les dessins sont signés Chris Gossett et Art Wetterell. Donc les dessins sont beaucoup plus sympas. Les traits parfois peuvent être un peu simplistes, cependant il y a quand même quelques combats qui sont très appréciables. Notamment quand on voit Exarchune manier deux sabres, alors là c'est vraiment magnifique, ils se sont fait vraiment plaisir. Quelques combats spatiaux très intéressants.
Est-ce que le sabre d'Exarchune, c'est son sabre séparé en deux ou c'est deux sabres complètement? Parce qu'il y avait un double lame,
c'est deux sabres.
Ok.
Non, le double lame c'est dans le prochain numéro, dans la guerre des Sith.
D'accord.
Là, c'est, si tu veux, je vais en parler, c'est le cheminement d'Exarchune où il va devenir Seigneur Sith. Donc là, on voit encore son entraînement avec Vodos Yogbas et tous ses acolytes. Donc c'est très bon au niveau de la colorisation. Ce que j'allais dire, c'est très pastel. Des fois, c'est même très simpliste. On a un fond qui est complètement bleu pour le ciel. C'est pas forcément terrible. Après, on a plaisir, parce que c'est vrai que c'est des personnages très intéressants. Ça reste quand même Nomi Sunrider, Exarchune, Ulic Keldroma, Vodos Yogbas, Odan Mur. Odan Mur, qu'on voit très très vieux, puisqu'il était déjà dans les deux premiers de la série Tales of the Jedi, l'Empire des Sith et la Chute des Sith. C'était à l'époque un jeune Jedi. Ben là, il est grand maître de l'ordre. C'est le sage qui apprend son savoir. Donc au niveau de l'histoire, on suit Exarchune et Ulic Keldroma. Exarchune qui va sombrer doucement mais sûrement vers le côté obscur. Alors là, je dirais qu'il sombre quand même de façon bien plus crédible qu'un certain Anakin Skywalker. Il est complètement corrompu par le seigneur Freedon Nadd, qui le mène jusqu'à Korriban, où on voit toute sa déchéance. Après, il retourne sur Yavin 4 dans le temple de Naga Sado. Quant à Ulic Keldroma, on voit qu'il sombre grâce à un poison Sith. Quand il essaye d'infiltrer un groupe du côté obscur, les Kratts. Les Kratts, je sais pas comment ça se prononce. Et très bonne histoire. Faut se jeter dessus surtout parce que c'est un tome important pour comprendre le prochain qui est pour moi le meilleur de la série.
D'accord.
Alors après on passe à X-Wing Rogue Squadron, le tome 5 chez Delcourt, Bataille sur Tatooine. Donc le scénario est signé Michael A. Stackpole et Jan Strand, et dessin John Nadeau. Donc au niveau dessin, certains aiment, moi franchement c'est pas trop ma tasse de thé. Je les trouve assez simplistes. En fait, c'est des dessins qui rendent super bien pour les batailles spatiales. pour les batailles spatiales, quand on voit les X-Wing et les TIE Fighter, ça rappelle vraiment, vraiment l'ancienne trilogie. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment génial. Par contre, comme la majorité de l'histoire se passe à Terre, ben, j'ai pas trouvé ça terrible.
Est-ce qu'il y a un lien direct avec les romans X-Wing?
Aucune idée, parce que je lis pas les romans.
D'accord. Mais j'imagine que c'est
exactement. Okay.
J'imagine que c'est les mêmes gens, mais dans des périodes différentes.
Ça complète.
Ah bah, de toute façon,
ça
oui,
complète
c'est
les
romans. Okay. Ça complète, d'accord.
C'est les membres de l'escadron Rogue, hein, donc mm-hmm. Wes, Johnson, mm-hmm. Telchou, tout ça, quoi.
D'accord.
Et donc, ce qui est intéressant dans ce volume, et aussi dans d'autres volumes qu'on a vus de X-Wing et des comics Star Wars, c'est qu'on a vraiment toute une histoire qui est créée autour de Darklighter. Donc, on avait déjà eu le deuxième volume, je crois, qui était deuxième volume de X-Wing Rogue Squadron, où il mettait en scène Darklighter. Darklighter, qui était l'histoire en version anglaise d'un des Empires. Mm-hmm. Donc maintenant, là, on rencontre son père, là où il vivait. C'est très intéressant. Bon, l'histoire est un peu bateau pour moi. C'est l'histoire d'une cache d'armes sur Tatooine que tout le monde essaye de choper pour pouvoir contrôler tout le secteur anciennement contrôlé par Jabba le Hutt. Donc, c'est marrant, c'est sympa, on aime bien voir Wedge Antilles, cependant, je trouve que c'est assez plat. Ce volume se termine par bataille sur Tandankin, donc ça c'est une autre petite histoire, une mini-histoire du scénario de Ryder Windham et des dessins encore de John Nadeau. Donc là, une histoire qui pour moi est beaucoup plus rythmée, elle est très très courte par contre, mais où on voit bien l'action des rogues. On retrouve des AT-AT avec des snowspeeders et c'est très intéressant. Où on voit un petit peu toute la chronologie de l'histoire de Wedge Antilles, mais de façon très très rapide. Donc un album sympa, mais pas indispensable.
D'accord.
Et après, je ne peux pas vous parler du dernier... saga en BD qui est sorti parce que je n'ai pas pu le trouver encore.
D'accord. Est-ce que tu as eu des nouveaux détails sur la série sur les Yuuzhan Vong Invasion? Y a-tu eu d'autres détails de paru là-dessus?
Non, j'en ai pas encore eu.
D'accord.
En plus, de toute façon, avec le net, là, c'est assez tendu récemment.
Enfin, je pense qu'il va toujours avoir genre une édition en ligne au mois de juin, je crois, avant que la série commence officiellement. Quelque chose comme ça.
Oui, c'est prévu en mai et en juin.
D'accord.
Donc, on devrait avoir des previews très intéressantes.
Mm-hmm. Les visuellement, ça a l'air très bien.
Ah oui, oui, non, ça va être sympa. Bon, je crois que c'est Fabry, il me semble, qui est au dessin.
Mm-hmm.
Je me rappelle plus bien. Il me semble que c'est Fabry. Bon, faudra que je vérifie. Ces dessins sont sympas, en tout cas. Le seul truc que je lui reprochais à chaque fois, c'est vrai que des fois, pour le dessin des visages, c'était un petit peu, les traits étaient un peu grossiers, quoi.
D'accord. En tout cas, on a vu la couverture.
Le dessin des Vong en eux-mêmes, c'est vrai que c'est très beau.
On a vu la couverture du numéro 1 en ligne. On voit comme Luke Skywalker qui pousse avec la force des Yuuzhan Vong. C'est surprenant parce qu'il est pas supposé pouvoir les pousser dans la force au début de l'histoire, là. Mais enfin. On verra bien.
La magie de Star Wars, tout se bouge.
Eh oui.
regarde avec Clone Wars, ça marche bien.
En effet. C'est parfait dans les temps. Tu vas être content, Raphaël?
Il lui reste une minute.
Qu'est-ce que, Jean-François?
Je vais juste dire, en complément, si vous allez, j'ai mis un lien là, sur le chat, merci, une entrevue avec Jan Buscema et John Ostrander concernant la série Legacy, Star Wars Legacy.
Donc, d'accord.
Pour ceux que ça intéresse, là, il parle de la future de la série. Ce qui s'en vient dans les prochains mois.
Ok, c'est là qu'il mentionne que les trois derniers, ben, les 17, 18, 19 et 20e numéro, je pense, c'est Cade Skywalker va s'intéresser à ses ancêtres ou quelque chose comme ça.
Ouais, c'est ça.
Donc, on va peut-être
oui,
voir.
C'est pas là où il retourne sur Tatooine, là?
Peut-être, j'ai aucune idée. Mais bon, ça va être intéressant de voir vraiment. On imagine que ça vient de Ben Skywalker, là. Mais après, oui. les enfants suivants, etc. J'ai bien hâte de voir si on va avoir des détails là-dessus. Donc, ben merci beaucoup Louis et Jean-François. Maintenant, Raphaël, qu'est-ce qui s'est passé côté collectionneur? Et puis, tu pourras poursuivre avec ce qui s'est passé à Migène en commentaire.
Il y a deux minutes.
Alors, est-ce qu'on micro fonctionne? C'est mon premier test déjà.
Ah bien oui.
Bon, en deux minutes, c'était extraordinaire. Je regrette que tu ne sois pas venu. Vivement l'année prochaine.
On te verra peut-être à QC, non?
À QC, non. C'est la... Alors, on va faire dans l'ordre. On va faire Migène pour commencer. Migène, très bonne convention. Il est difficile de dire de mal des conventions en France de façon générale. Migène fait partie des conventions qui ont un bon rythme. Un bon rythme, ça veut dire très bonne convivialité, très bonne ambiance automatiquement, des acteurs à l'image de Richard Hatch et de Colin Cunningham, et pas comme Cunningham pour stériliser l'eau, là, pour changer l'eau en sel, je sais plus. Mm-hmm. Des acteurs vraiment très accessibles. Je pèse mes mots, parce que pour avoir fait beaucoup de conventions, des fois, on a certains acteurs où on dit beaucoup de mal par rapport à leur comportement avec les lambda comme nous. Là, je peux tirer mon chapeau. Je peux vous dire que ça soit aussi bien notre Apollo que notre Major Davis, ou aussi bien que les imitateurs des Simpsons, ce sont des personnes ultra accessibles. Mm-hmm. Et je tire mon chapeau pour l'organisation qui a su mettre tout le monde sur le même piédestal, ce qui n'est pas souvent le cas. Mm-hmm. Je peux donner des noms d'acteurs pas gentils?
Ben, vas-y.
Ah, je peux pas, on m'a dit. On me fait signe que non.
Dérago.
Bah, je crois que dès que ça mesure plus d'1m90, voire 2m, c'est pas agréable.
D'accord.
Là, ça commence à faire.
Donc, si je me fais aux photos qu'il y avait sur votre site, si tu parles de David Prowse, est-ce possible?
Non, Dave Prowse est vraiment admirablement gentil. Ah, j'étais surpris le jour que je l'ai rencontré, oui.
Donc, c'est de qui tu parles donc? Ok.
Ah, tu fais super bien le Wookiee, bravo.
C'est vrai? Merci.
C'est le Wookiee dépressif.
Elle, hein. Elle ne le refait plus jamais.
Sinon, il y a George Lucas qui va t'attaquer pour diffamation.
Mm-hmm. Oh, bah, ça va, je dirais que c'est ma porte de placard ou que c'était mon dromadaire. Voilà. Pour revenir à la convention, au-delà des acteurs, au-delà de la Sens Unième qui nous avait offert un petit stand pour les enfants qui pouvaient s'initier au blaster et gagner des petits lots et des petits patchs, genre Academy Stormtrooper, auquel j'ai participé, et on m'a fait comprendre que du haut de mes 40 ans, je passais très très mal pour un jeune enfant, malgré ma bêtise, mais j'ai fait le forcing et j'ai pu participer au jeu. Mm-hmm. Le R2-D2 Builder était présent aussi, nous a fait plaisir de faire marcher ses droïdes, nous a initié au looping avant de droïdes. En quoi ça consiste? À faire avancer le droïde autonome, lui faire heurter un câble électrique caché sous la moquette, mm-hmm. et le faire piquer de l'avant et essayer de le faire tomber sur ses pieds. On attribue une note après. Mais pour l'instant, aucun des robots qui a essayé n'a pu retomber sur ses pieds.
C'est vraiment le meilleur plongeon.
Oui, je peux te dire que là, on a eu droit à des super plongeons, parce que les fils étaient cachés sous la moquette, on n'avait pas vu quand on a lancé les droïdes, et les droïdes nous ont vite rattrapés en disant qu'il y avait un câble au milieu. On a réparé tout ça, et tout le monde a repris ses esprits, et il fonctionne à nouveau. Mm-hmm. Et il y avait aussi, en même temps, sur le salon, au-delà de tout l'environnement, des costumés de Star Wars, aussi bien des Ken Rider que des Princesses Leia, que des Jedi, une flopée de on va dire, de costumés, qui venaient aussi bien de France que de Belgique. Je salue mes amis belges s'ils m'entendent, bien sûr. Et puis, à travers cette convention, il y a aussi un petit espace dédié à un retour dans le futur. Mm-hmm. Alors pour ceux qui sont fans de la série des trois films ou de la série dessin animé, moi j'ai été bluffé par le stand avec une vraie DeLorean.
Oh mon dieu, waouh.
Et oui, une vraie de vraie, auquel je vous dis, j'ai dû user mon appareil photo tellement que je l'ai photographié. Et j'ai fait des pieds et des mains pour m'asseoir à l'intérieur. Et je peux vous dire que je remercie Jean-Marc Deschamps et toute son équipe, des gentlemen, qui m'ont permis vraiment de répondre à mes fantasmes d'enfant, de jouer, d'être dans une DeLorean à l'échelle 1.
Waouh.
Ah, ça fait du bien. Avec les ailes, les portes qui s'ouvrent sur les côtés, mm-hmm. la fumée qui sortait, extraordinaire. Extraordinaire. Donc, une très, très bonne convention. Avant de repartir prochainement sur QC, mm-hmm. où je ne serai pas tout seul à y aller, Il y a du monde qui va venir avec moi QC.
Non. Yes.
Ah.
Quoi, non?
Qui va QC alors parmi nous tous?
C'est un peu loin pour moi.
Bah oui.
Tu faudrait que tu fasses un effort, Danny, hein.
Ouais, quand même, hein. À QC, il y aura Fabri, le dessinateur.
Oui, donc c'était pas Fabri pour l'autre truc.
Ouais. C'est vrai?
Pour une des jeunes.
D'accord. Parce que tu pourrais lui dire qu'il dessine mal les personnages, qu'il dessine mieux les vaisseaux.
Non, justement, Fabri, j'aime bien son style. C'est le style que j'ai retrouvé dans des Empire et dans des Rébellions. Et je trouve qu'il est vraiment, c'est un terme à la con, rafraîchissant.
Oh non, c'est pas un terme à la con.
Alors, c'est trop cool de dire ça, mais c'est un style qui change de ce qu'on peut voir avec Kursema et tout ça.
D'accord. Donc, Fabri sera à QC, lui, prochainement. Donc, ça veut dire à la fin du mois. Avec,
Je peux faire signer mes BD.
Bah, si tu veux, envoie-moi les, je les ferai dédicacer.
Non, mais j'y vais, donc.
Ah, mince. Bon, bah, je n'y vais pas. Et il y aura Logan, l'enfant de Boba Fett Petit. Voilà, si je ne me trompe pas. Et qui lui aussi est une toute première apparition en France sur un type de convention. Entre-temps, il y a bien quelques petits carnavals. Alors, je fais une petite aparté sur les carnavals, puisque sur certains carnavals locaux, l'exemple d'Aix-en-Provence ou d'autres carnavals, il y aura la présence de certains membres de la 101e et de R2D Builder qui vont faire diffuser, qui vont faire défiler leur costume et leurs produits pour soit les œuvres charitables et toutes ces choses-là. Donc, je voulais souligner ce petit geste. Voilà.
Excellent.
Donc, il me reste encore exactement 13 minutes.
Ouais.
Vous parlez des prodeurs, c'est ça?
Ben, théoriquement, t'avais 10 minutes pour événement, puis 10 minutes pour coller, pour prodeur, donc.
Ah, donc, tant on que tu combines. 3 minutes, alors. Alors, je regrette de pas avoir la caméra.
Il va nous parler pendant 20 minutes d'Asbro, quoi.
Oh là là. Bon, bah, tant pis, je voulais vous montrer quelque chose. Parce que, figurez-vous qu'à la soirée Mygène, Colin McQuingan, qui est le Major Davis, nous a fait des tours de magie.
Ah ouais.
Et parmi ces tours de magie, il a torturé des petites cuillères. Et comme, vous savez, comme tous les fans que je suis, genre, arraché les t-shirts de Johnny Hallyday en concert, toutes ces choses-là, ben là, j'ai récupéré la petite cuillère qu'a matraqué, qu'a déformé Colin Quingan, et je pensais vous la montrer en vidéo, mais ma webcam ne veut pas fonctionner, et je peux vous dire, si vous voyez l'état de la petite cuillère, vous dites, c'est pas possible. Et pourtant, il l'a fait.
Collector, faut la revendre sur eBay.
Collector. Mais rien que ce que je dis, collector, déjà, c'est invendable sur eBay, je veux dire. Le podcast où j'interviens prend tout de suite une valeur indéfinie sur eBay. Hein. Il va de soi. Henri, c'est vrai.
C'est pour ça que nos audiences baissent chaque mois.
Donc voilà pour la partie, on va dire, événement. Je vais revenir sur les prodeurs, ça va être relativement rapide, puisque à part l'avalanche d'Hasbro quotidienne que vous avez déjà annoncé, rien de nouveau de ce côté-là. On voit les packs 1, les packs 2, les packs 3, les packs se suivent et se ressemblent, malheureusement. Il y va de même sur on va dire, tout ce qui était annoncé en sabre, à part le sabre annoncé dernièrement, rien de nouveau. Les seules choses qui sont, on va dire, arrivées ou qui sont annoncées, on attendait énormément d'événements de ce qu'allait se passer au Toy Fair de New York, où tout le temps, il y a toujours des super news avec des super prodeurs, des exclusivités. Et ben l'exclusivité, là, c'est qu'il n'y avait rien.
Aussi simple que ça.
Voilà. C'était simple comme cela, oui. Ça veut dire que je sais pas ce qui s'est passé au niveau de tous les événements qui annoncent, on va dire, la sortie d'événements de ce type-là, qu'on peut mettre New York, comme peuvent être d'autres conventions, mais là, ça a eu le plat calme. Mais quand il y a eu le plat, c'était impressionnant.
Mais ça doit être la conjoncture économique. Là, il y a peut-être quelques compagnies qui ne font pas le voyage, tout simplement.
Ils sont tous suicidés.
Je pense surtout que, au-delà de tout ça, je pense que c'est événementiel par rapport aux États-Unis qui vivaient une passe pas très agréable. Et vous aussi montrez le coup. Mais bon, n'oublions pas que la licence Star Wars, à l'image de Lego ou d'autres organismes, gagnent très bien leur vie avec cet ensemble d'enseignes que peuvent être Star Wars à divulguer à toutes les sauces. Hein. Aussi bien en ketchup qu'en shampoing, qu'en dentifrice, qu'en brosse à dents ou ce que vous voulez. Donc c'est vrai qu'on a été un peu triste de ce côté-là. On pensait avoir des nouveaux bustes, ces sideshows. On a vu quelques prémices de certains personnages. On sait, par exemple, que va sortir dans la même série des bustes, entre guillemets, des full size 1-1. On a vu être ça très, très longtemps, pour ceux qui l'ont eu, Dark Maul. Après était sorti Greedo. Après était sorti, Bosque. Et là, le nouveau qui a annoncé, c'est l'amiral Akbar. Sachant qu'entre, il y a eu, Palpatine de toute beauté. qui est l'une des plus belles réussites dans ces combinaisons de personnages. Et c'est vrai que les 10 minutes qui me restent vont être longues. Donc, si Henri veut prendre la suite, ou si quelqu'un veut prendre la suite, avec grand plaisir, parce que je sais pas si c'est le retour du printemps qui a fait que tout le monde s'est un peu calmé dans la distribution des produits. Mm-hmm. Je sais pas si c'est une pseudo suite conjoncturelle par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, mais c'est vrai que dans l'univers des produits dérivés, il y a eu un grand calme plat, où je pensais qu'avec l'arrivée, on évoquait tout à l'heure, de nouvelles séries ou de nouvelles sorties cinéma de science-fiction, allait apporter de nouveaux prodeurs. Mm-hmm. Mais là, ça reste aussi très très calme. Donc, j'espère que la prochaine émission sera plus joyeuse au niveau d'annonce de produits.
Mm-hmm. Il y a quand même le DVD du film Clone Wars en Blu-ray, puis en définition standard qui est sorti en Europe. Nous, on l'a depuis un petit bout de temps, mais vous avez quand même eu ça qui est sorti récemment, je crois.
Mais alors après, c'est une histoire de bataille entre nous tous, entre ceux qui l'apprécient, ceux qui n'apprécient pas le DVD, ou au moins le contenu du DVD.
Mm-hmm. Ben, la...
Qui n'apprécie pas le film, tout simplement.
Ouais, c'est ça, mais la controverse que je voulais en venir un peu, c'est le fait que la version de la zone 1 est différente dans son contenu de celle de la zone 2. En fait, c'est que les extras ne sont pas disponibles dans la version standard.
Bah, nous, la différence, c'est qu'il y a il y a une sortie spécifique pour la Fnac, mm-hmm. Qui est un distributeur en France d'événements culturels, où ils ont une sortie spécifique avec un petit coffret papier, mm-hmm. un petit livret qui accompagne le DVD. Là, le seul bonus qu'on a pu avoir au-delà du DVD bonus, je veux dire. Mm-hmm. Mais c'est vraiment la seule chose qu'il y a eu de transcendant dans ces choses-là.
D'accord.
Il n'y a pas eu de choses qui permettraient de dire ils n'ont pas sorti un package spécifique par rapport à ça.
D'accord.
On attend toujours le coffret ultime, hein,
ouais.
De Star Wars.
Peut-être un jour, malgré que peut-être pour le 30e de l'Empire contre-attaque, qui serait l'année prochaine, peut-être. Enfin, il faut qu'il transforme quand même en HD tous les films de la trilogie classique. Donc.
Alors là, ce que j'ai un peu peur, c'est d'avoir le HD de la normale, de la HD remasterisée. La HD de l'HD, la HD de la version sous-titrée modifiée Cop-Up Director Cup. Mm-hmm. Alors, j'ai un peu peur de tout ça aussi. Hein.
Mm-hmm. J'avoue que...
Peut-être que je me trompe, mais mais c'est ça qui me fait un peu peur. C'est un peu comme vous évoquez, certains d'entre vous, quand vous parlez des séries, des BD ou avec BD Magazine, on retrouve des séries déjà ressorties qui coupent et qui remettent dans tel magazine. Quand vous évoquez certaines choses, nous, c'est un peu pareil avec les prodeurs où certains prodeurs sont juste, on rechange l'emballage, on se donne un coup de peinture et on rechange le nom et on y va. Et c'est vraiment là où on se pose des problèmes et des petites questions à l'heure actuelle. C'est,
on a entendu parler. C'est vraiment une grosse quantité, quoi.
Ouais, malheureusement, oui, c'est ça. C'est-à-dire que on a un peu peur que, à court terme, certains bustes qui sortent soient uniquement des bustes repeints. Ça veut dire qu'on va avoir, je sais pas, moi, on peut prendre un R2-D2, on ne prend pas toutes les couleurs après. Ouais. Et on change juste les lettres. Et on a un peu peur de ça dans certains prodeurs, malheureusement. Mm-hmm. Ce qui est déjà le cas.
Pour ceux qui aiment Mace Windu, je vous invite à aller sur le site officiel de Star Wars. Ils font un article sur tous les trucs de collection spécifiques à Mace Windu. Donc, allez voir, c'est sur la page d'accueil de StarWars.com. C'est assez intéressant. On voit tous les de Hasbro aux statuettes, aux sabres laser, etc. Mm-hmm. Donc, allez voir ça sur la page d'accueil de StarWars.com.
Et au-delà de tout ça, si vraiment vous faire peur, c'est acheter le livre de Duncan ou le livre de Gus Lopez, mm-hmm. qui a eu la gentillesse de tout référencer les produits dérivés de Star Wars. Mm-hmm. Et quand vous voyez la masse de livres, la masse du contenu, vous dites qu'au moins une chose est sûre, c'est jamais vous aurez tout. Vous rassurez.
Il y a peut-être Steve Sansweet qui s'en approche, mais...
Non, je pense même pas.
Même pas?
Ouvertement, je pense que c'est impossible.
D'accord.
Je pense qu'il faudrait au moins 30 gros Gus Lopez ou 30 grosses McCallum ou 30 gros Sam Sweet ou 30 grosses personnes qui pour pouvoir voir ça.
D'accord.
C'est inimaginable, c'en est même déconcertant.
Ben merci beaucoup Raphaël.
Ben merci à vous tous.
Donc on va immédiatement passer du côté littérature plus spécifique au roman. Donc Henri va parler des dernières nouvelles.
Oui, donc il y en a pas mal. Ça a été assez rempli comme moi. Donc on va commencer par juste les dernières sorties. Donc ça va être plus rapide. Ça c'est une partie rapide. Donc on a eu le 26 février dernier, la sortie du deuxième Darkbane, la règle des deux chez Fleuve Noir. Donc la suite de la série Darkbane, donc dont on aura le troisième tome en VO bientôt. Et la dernière sortie et la future sortie VO qui sera le 24 mars prochain, qui sera le premier Fate of the Jedi. Donc pour les futures sorties et dernières sorties, c'est tout. Ensuite, toutes les nouvelles, ça va être un peu plus long. Donc on va commencer par l'annonce du quatrième titre de Fate of the Jedi, qui sera Backlash. Donc on ne sait pas du tout encore de quoi ça va parler. Donc je pense que le synopsis va pas tarder, vu que dernièrement les synopsis de Fate of the Jedi sont arrivés.
On se fait bombarder quand même du côté littérature.
Oui. Oui, oui, on a eu plein de synopsis, sûrement pour contrer, justement, parce qu'Amazon avait eu des synopsis en avant-première, et je pense que le site officiel a voulu rattraper le coup en nous offrant des couvertures et des synopsis mm-hmm. en plus. Donc, ensuite, on va passer au Darkbane 3, justement, dont je vous parlais il y a 30 quelques secondes. Mm-hmm. Donc, peut-être que la couverture va apparaître sur la caméra, voilà, qui représente Darkbane et son apprenti Zana. Donc le synopsis est le suivant. Les Sith sont morts, à l'exception de Darkbane, créateur de la règle des deux, qui dit que le nouvel ordre Jedi ne consistera qu'en deux membres, un maître et un apprenti. Mais comment entraîner un apprenti dans le but ultime, épreuve de son succès, est de tuer son maître? Darkbane commence à souffrir des effets de tirer trop fortement ses pouvoirs du côté obscur depuis tant d'années. En même temps, il commence à douter de son apprenti, Zana, parce qu'elle n'a pas encore essayé de le tuer pour prendre le pouvoir. Est-elle faible, non digne d'être son apprenti? Lorsqu'il apprend l'existence d'un ancien artefact Sith qui pourrait contenir le secret de la vie immortelle, il part seul à sa recherche. Mais Zana est tout sauf faible, et maintenant qu'elle connaît ses inquiétudes, elle sait que le temps arrivera bientôt de le tuer. Les forces du mal vont se rencontrer lors d'une spectaculaire bataille avec le futur des Sith en équilibre. Donc, connaissant Drew Karpyshyn, je pense qu'on peut s'attendre à un très bon roman, parce que je sais que j'avais bien aimé les deux premiers.
Je suis pas mal certain que ça va être la mort de Darkbane, hein. Dans celui, je pense pas qu'il va y avoir un troisième.
Sûrement. Quatrième, tu veux?
Ouais, c'est ça plutôt, ouais. Ouais. Est-ce que c'est une éclipse qu'on voit en arrière sur la couverture, d'après toi?
Je ne sais pas du tout. Attends,
c'est une version plus grande, là. J'ai le temps l'impression que c'était comme une éclipse qu'on voyait en arrière. Enfin, c'est un détail, je veux dire, je pense pas que... Mais quand il parle de l'artefact qui donne la vie éternelle ou peu importe, ça me fait penser à Dark Plagueis et son secret que Palpatine essaie de découvrir. Donc.
Oui. Et le roman sortira en grand format en décembre. Ensuite, petit changement du côté de Death Troopers, qui était à l'époque en un seul mot sur la couverture. Donc il est passé en deux mots. Bon, je me demande si c'est pas pour... parce que peut-être que les gens pensaient que en un seul mot, c'était des Stormtroopers un peu spéciales. Mm-hmm. Donc, je pense qu'ils ont voulu bien dissocier le fait que, voilà. Ce n'étaient pas des Stormtroopers nouvelle génération.
J'aurais appelé ça Dead Trooper. Ça aurait été plus simple.
Ouais. Et voilà, on a eu aussi, via Amazon, un long synopsis qui en révèle pas mal. Donc, si vous voulez pas être spoilé.
Je vais à l'instant rajouter un petit signal, vous l'entendrez pas, mais il va être sur l'enregistrement. Et voilà. Spoiler!
Donc le synopsis. Durant l'époque suivant la destruction de l'Étoile Noire et entre les années séparant la bataille de Yavin et la fondation de la base rebelle sur Hoth, l'emprise de l'Empire sur la galaxie est devenue un point de rétribution. Forcés par l'empereur Palpatine, les forces impériales ont augmenté leurs efforts pour traquer et emprisonner les sympathisants rebelles, puis les envoyer dans de nouvelles lunes de détention avec des barges carcérales. Par nécessité, ces barges sont des chambres flottantes pour le vice et la dégradation, des vaisseaux peu fiables remplis d'officiers impériaux de correction dont la cruauté rivalise avec celle des prisonniers. La barge impériale carcérale Virtue transportait son nombre de prisonniers criminels et meurtriers, humains et non humains, à travers la galaxie, lorsqu'elle tomba en panne aux portes de la galaxie. Peu après, le directeur fait la découverte d'un Star Destroyer apparemment abandonné et envoie une équipe pour récupérer des pièces pour le Virtue. La moitié n'en revient pas. Ceux qui reviennent sont infectés par un virus si meurtrier qu'en quelques heures, il détruit 90% de la population de la barge. Mais pour la poignée de survivants, deux frères, la chef médicale et un capitaine sadique, ainsi qu'un contrebandier et son acolyte Wookie, l'horreur ne vient que de commencer. Parce que les prisonniers et les gardes qui sont morts par le virus ne restent pas morts. Et lorsqu'ils reviennent, ils sont affamés. À contre-cœur, les survivants prennent refuge dans l'immensité du Star Destroyer, seulement pour découvrir que sa population d'origine n'a pas disparu, et qu'elle les attendait. Donc, d'un côté, je suis très impatient, comme j'avais dit à une époque. Mm-hmm. De l'autre, je me demande ce qui peut se passer, parce que, après avoir vu le synopsis, ça rappelle, par certains moments, un peu Prison Break. Mm-hmm. Parce qu'on a la cruauté des officiers de correction, ça rappelle un peu Bellic dans la première saison. On a la chef médicale qui rappelle un peu Sarah Tancredi aussi dans Prison Break, donc évidemment, et l'histoire de tous les zombies, donc mm-hmm. Je me demande où ça va rater, où ça va réussir.
Ça donc, fait très 28 Days Later, ou tout ce genre de films-là, oui. Que le monde sont infectés d'une rage qui leur donne faim ou quelque chose.
Oui. Donc je sais pas comment l'auteur va s'en sortir avec ça, mais je suis assez curieux, mais assez effrayé en même temps.
Mais enfin,
parce que il peut devenir très rapide, ça peut très rapidement devenir le plus mauvais livre de Star de la mm-hmm. de l'univers étendu, je pense.
Enfin, et puis j'ai hâte de voir c'est quoi le rôle de Han Solo et Chewbacca.
Pire que le prince Ken.
C'est un peu difficile ça,
mais non, ça peut être dur quand même, hein. Ouais.
Mais c'est ça, voir quel est le rôle de Han Solo et Chewbacca, si c'est juste un caméo ou s'ils vont avoir un certain rôle pour sauver les quelques personnes survivante.
On passe au synopsis du second Fate of the Jedi, Omen, dont peut-être que la couverture va apparaître, voilà. Faut que Sue Rostoni avait révélé le nom du personnage sur la couverture, mais je ne le retrouve pas.
C'est Vestara.
Merci. Bon, par contre, on sait pas du tout qui elle est. Ouais. Bon, en tout cas, elle est armée d'un sabre laser.
Et d'un couteau.
Ouais. Donc elle est sûrement dangereuse.
Moi, sans blague, au premier coup d'œil là, quand j'ai vu la Vestara, j'ai dit, on dirait Jaina Solo. C'est son look, ses cheveux ouais. Un peu, sauf qu'elle est maquillée, mais on a bien vu que c'était pas elle. Là, donc, mais c'est comme l'allure qu'elle avait, ça me faisait penser à d'autres couvertures du Nouvel Ordre Jedi ou quoi que ce soit qu'on voyait Jaina sur la couverture.
Oui, donc le synopsis de Omen, donc, il est aussi un peu long. L'ordre Jedi est en crise. La transformation choquante de feu Jacen Solo en Seigneur Sith, Darth Kedus, a jeté un voile noir sur ceux qui utilisaient la force pour le bien. Deux chevaliers Jedi ont succombé sous les attaques d'une inexplicable et dangereuse psychose. Les charges criminelles contre Luke Skywalker l'ont forcé à partir en exil. Et la chef de l'État, Natasi Da'ala, soif de pouvoir, exploite un sentiment anti-Jedi pour détruire l'influence de l'ordre Jedi au sein de l'Alliance Galactique. Interdit d'intervenir dans les affaires des Jedi, Luke part en mission pour découvrir la vérité derrière la chute de Jacen Solo dans le côté obscur et savoir ce qui transforme les Jedi en délurés. Mais pour trouver des réponses, il faudra s'aventurer dans le Cathol Rift et négocier avec une race d'aliens qui peut aussi bien marchander que tuer les étrangers. Malgré cela, Luke n'a pas d'autre choix et n'a pas de temps à perdre, tandis que les événements continuent de s'aggraver sur Coruscant. Atteinte par la même maladie que son frère Valin, Jezila Horn fait face à un sombre destin après sa capture par la police de Da'ala. Et lorsque Leia et Han Solo arrivent à empêcher un autre Jedi de détruire tout sur son passage, même l'actuel grand maître Jedi, Kenth Hamner, se sent prêt à s'incliner devant Da'ala au détriment de l'ordre Jedi. Mais une plus grande menace approche. Il y a des millénaires, un vaisseau Sith s'est écrasé sur une planète inconnue, technologiquement primitive, laissant les survivants bloqués. Au fil des générations, leur nombre s'est renouvelé, les voies du côté obscur entretenues, et le temps arrivera bientôt lorsque cette tribu perdue des Sith rejoindra les étoiles pour réclamer leur destinée légendaire de maître de la galaxie. Une seule chose se tient sur leur chemin vers la domination, un nom qu'il aurait murmuré dans la Force, Skywalker. Et le livre sortira en grand format en été.
Encore une fois, ça fait du réchauffer un peu. Si on pense aux sorcières de Datomir dans Courtship of Princess Leia, c'est des générations d'anciens Jedi qui se sont développés sur la planète. T'avais les deux clans, donc on voit encore un peu le même principe, sauf sur une autre planète. Ils vont enfin trouver un moyen de se sauver de la planète. C'est un peu le même principe, là. Mais il fallait bien que les Sith reviennent. C'est la seule solution dans l'univers Star Wars. On a eu des aliens extra-galactiques qui sont venus envahir. Qu'est-ce qu'on peut avoir maintenant d'autre? Donc, mais on va peut-être avoir les colicoïdes là, qui vont revenir comme un côté des vilains. En tout cas, on verra là. Ça va faire comme les Twi'lek un peu là, les Kilik plutôt.
Mais je pense que les Sith, on les verra toujours et encore encore.
Bah oui.
Je pense qu'on a ça. On risque d'en avoir.
Faut arrêter quoi. D'ailleurs qu'à un moment, faut savoir s'arrêter, sinon on détruit tout.
Ensuite, on a aussi eu un petit synopsis pour le troisième Fate of the Jedi qui est Abyss, qui présente Leia Organa.
Elle a l'air plutôt jeune, n'est-ce pas, sur la couverture?
Oui, toujours, oui. Ils ont les cures de rajeunissement.
Ouais, le rejuvenation, c'est ça.
Ouais. Et donc, ce livre-là sortira également en grand format, comme tous les autres de la série, en août prochain. Et le synopsis, toujours en provenance de Amazon, beaucoup plus court que les autres. Luke et Ben Skywalker arrivent dans une mystérieuse partie de la galaxie du nom de la Gueule, durant leur recherche pour découvrir les raisons de la chute de Jacen Solo dans le côté obscur. Mais ils ne sont pas seuls pour explorer la Gueule. Un maître Sith et son apprenti y arrivent aussi, ayant suivi l'ancien vaisseau Sith découvert par Ben dans Legacy of the Force. Et ils sont heureux d'y découvrir Luke, car ils sont déterminés à le tuer. Mais il y a un autre être puissant qui se cache dans la Gueule. Il est très puissant, entièrement mauvais, et a ses propres plans pour Luke Skywalker. Donc on n'en sait pour l'instant pas plus, donc il y a encore sûrement plein de questions auxquelles il va falloir répondre.
On se rend compte qu'il y a plein de sites un peu partout, hein.
Oui, encore. Oui. Mais je pense qu'on n'a pas un plus grand synopsis, sûrement pour garder un petit peu la surprise encore.
Mm-hmm. Ben, il parle encore que les Jedi, il y a certains Jedi qui sont infectés de quelque chose qui les rend fous. Donc je me demande un peu...
Certaines rumeurs disaient que c'était carrément Dahlak qui aurait créé cette maladie.
D'accord.
Donc, à voir si ça se confirme ou pas. Mm-hmm. Ensuite, donc c'est terminé du côté des couvertures, mais petite note par rapport au premier Fate of the Jedi, c'est que le site de Random House a récemment mis en ligne un petit extrait audio tiré de l'audiobook de Outcast. Donc, si vous voulez avoir un petit extrait du bouquin lu et commenté comme d'habitude, mm-hmm. Faut aller sur le site de Random House. Ce sera sûrement facilement trouvable.
Oui.
Donc, ensuite, plus intéressant, on a eu le synopsis de Imperial Commando, toujours en provenance d'Amazon, qui nous a gâtés, qui est le roman qui s'appelle 501st par Karen Travis, qui fait suite à la série République Commando. Mm-hmm. Donc encore une fois, si vous n'avez pas lu Order 66, qui n'est pas sorti en France, attention spoiler, parce qu'il y a quelques informations sur la fin de la série précédente, que le synopsis est le suivant. La guerre des clones est terminée, mais la bataille entre l'Empire et les clone troopers qui ont déserté ne vient que commencer. Avec des contrats de mort sur leur tête et une garnison impériale haïe sur Mandalore, le clan des clones vétérans de Cal Skirata, des mercenaires Mando, des réfugiés marginaux et un Jedi renégat découvrent que leur pire cauchemar les a suivis chez eux. La recherche pour guérir le vieillissement accéléré des clones devient de plus en plus pressante et le fils de Ethan doit être protégé coûte que coûte. Darman et Niner sont toujours bloqués dans la Légion impériale et se battent pour survivre dans une armée très différente. Mais tandis que Mandalore se prépare à résister au nouvel ordre de Palpatine, Skirata est forcé d'offrir un sanctuaire pour ceux qu'il haït le plus, et certains qu'il croyait morts. Le clan Skirata pensait que rien ne pouvait être pire, jusqu'à ce que leur armée, privée de fortune, doit faire face à la réalité de combattre l'Empire. Leurs ennemis les plus mortels se trouvent être leurs propres frères. Donc là, ça va être consommation des combats entre clones et Storm, mm-hmm. Donc évidemment, qui sont tous issus de Django. Donc je pense que vu que ça va être leurs frères, ça va sûrement... Encore un truc très intéressant rendu par Karen Travis.
On va faire un petit peu à la Battlefront 2, mm-hmm. comme sur Kamino.
Mais ça confirme que c'est...
Peut-être que d'ailleurs ils vont croiser les données avec un peu de chance.
Peut-être.
Ouais.
Mais ça confirme vraiment le fait que c'est la suite de la série Republic Commando avec les mêmes personnages. C'est simplement le changement de période qui fait que le nom change.
En tout cas, j'ai très très hâte.
En effet.
Ensuite, je vais tout de suite passer par la révélation du titre du roman qui sera coécrit entre Michael Reeves et Maya Catherine Bonhoeff, qui n'avait pas encore de titre. Et le il a été révélé il y a 2 jours même. Mm-hmm. Oui, il y a 2 jours, ouais. Même hier d'ailleurs. Et ça s'appellera Holostar. Donc c'est d'un côté, j'ai un peu peur, juste en voyant le titre, j'ai un peu peur de l'histoire, parce que j'ai l'impression que ça fait, comme on dit, cheesy en anglais. Mm-hmm. J'ai un peu peur du sujet, et j'espère que ça sera pas trop un truc à l'eau de rose, genre Feu de l'amour.
Ben ça fait un lien un peu avec Coruscant Knight 3 Pattern of the Force, qu'on va discuter un petit peu, parce que Dan Dur, qui est le reporter qu'il y avait aussi dans la série MedStar, c'est son amoureuse, est une holostar sur Sullust, donc c'est peut-être, vu que c'est les deux mêmes auteurs qui vont écrire le roman, ça va peut-être se passer avec cette personne-là. Elle s'appelle Eyar, je crois. E-Y-A-R, donc peut-être que c'est...
Mais c'est un peu bizarre qu'il ferait un roman sur une seule STN qu'on connaît à peine, qu'on a à peine vu.
Ben, faut dire quand même que Coruscant Knights, en général, il y avait peu ou pas du tout de personnages qu'on connaissait, à part peut-être Darth Vader, puis quelques personnages de MedStar.
On avait déjà, donc on connaissait déjà un petit peu les personnages. Mm-hmm. Mais sinon, il est prévu pour l'année 2011, donc on a le temps de le voir venir.
Ah, en effet.
Non, je voulais finir par la nouvelle jeunesse parce que le site officiel a révélé le 4e tome de Rebel Force qui sort chez Scholastic en ce moment. Le 4e tome va se nommer Firefight et le synopsis est le suivant. L'assassin X-7 a toujours réussi ses missions jusqu'à maintenant. Démasqué et désarmé, il a bien failli ne pas s'échapper des mains des rebelles avec sa vie. Sa couverture a peut-être été exposée, mais il ne retournera pas auprès du commandant Rezi Soresh avant que sa cible ne soit éliminée. Cette fois, il a un nouveau plan. Recruter 6 des meilleurs pilotes de la galaxie, tous des mercenaires qui n'aiment que l'argent. Et il souhaite les retourner contre l'escadron rouge. Donc, allez savoir pourquoi c'est pas l'escadron rogue. Je sais pas, peut-être que j'ai mal compris le synopsis. Mm-hmm. Et ensuite, il compte sur les instincts des mercenaires pour les garder en ligne. Mais l'un d'eux possède un secret qui pourrait coûter la victoire à X-7. Et le roman, écrit par Alex Wheeler, est prévu pour septembre.
D'accord. Est-ce qu'en français c'était l'escadron, est-ce qu'en anglais c'était The Red Squadron ou bien Rogue Squadron?
Oui. Red. Red, c'est pour ça que j'ai traduit, pour ça que j'ai traduit en rouge.
D'accord. C'est parce que souvent en anglais, il y a des gens qui écrivent rouge, de la façon écrite en français pour dire rogue, comme si c'est parce que c'est souvent des fautes de frappe, le U et le G sont inversés, rogue, donc ça fait rouge quand tu fais une faute de frappe quand tu inverses les deux lettres, donc ça arrive souvent.
Il n'est pas impossible que j'ai mal compris la fin du synopsis, parce que bon, ça, certaines expressions anglaises sont encore un peu dures pour moi.
Donc on a tous les deux terminé Coruscant Knight Pattern of the Force. Si on peut dire en général nos premières impressions, mais j'ai pas beaucoup de choses à dire, mais enfin, comment t'as trouvé le roman, puis peut-être la série, si tu t'en souviens assez?
Ben, la série en général était sympa, donc on n'avait pas des personnages connus vraiment beaucoup, donc ça change un peu des habituels personnages. Par contre, j'ai été un peu déçu par la fin de cette série-là. Mm-hmm. Bon, certains disent « Ah, ça se termine bien, donc tout va bien. » Mais je trouve que, vu l'époque, je me disais « Ben, voilà, quoi. » Donc, je sais pas si on peut spoiler ou pas. En fait, Jax, en fait, Jax, il survit, alors que c'est pourtant un Jedi. Mm-hmm. Alors que moi, je pensais vraiment que ils allaient se faire tuer, quoi. Parce que c'est comme l'époque de la purge, donc... Il arrive à s'enfuir. Il recommence son petit business sur Coruscant de détective. Et c'est quand même un Jedi. Il a pas tellement peur que ça. Il a échappé à Dark Vador.
Ouais. Ben, Dark Vador est tombé par la fenêtre. Fait que c'est pas, il s'est pas vraiment sauvé, là.
Non, mais je veux dire que quand même Vador, il a quand même pas peur de recommencer ses enquêtes, alors que Vador va sûrement partir à sa poursuite. Alors, est-ce qu'il y aura une suite, un de ces quatre ou pas, mais je me disais que j'étais persuadé en lisant le roman que j'allais tous y passer, quoi.
C'est ça. Moi aussi, au départ, c'est ce que je pensais. Mais bon, toutes les portes sont ouvertes encore. Donc, si un jour Michael Reeves s'est gardé une possibilité, si Del Rey décide de continuer cette série-là, moi, personnellement, j'ai bien aimé le roman. J'ai su hier en lisant le blog justement de Maya Catherine Bonoff qu'elle a coécrit le roman Coruscant Night 3 avec Michael Reeves. Je sais qu'elle était dans les remerciements, là, mais je savais pas qu'elle avait participé au roman, qui est comme dans le fond, c'était comme une introduction.
Son nom va apparaître.
C'est ça.
Mais pardon, son nom va apparaître enfin officiellement sur justement le roman Lost Star.
Mm-hmm. C'est ça. C'était plus une introduction qu'elle dit elle-même. C'était plus une introduction au monde de la publication Star Wars pour se préparer justement au prochain roman, parce qu'elle, elle n'a jamais écrit dans ce monde-là. Comme tous les autres auteurs de Star Wars. Qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant dans ce roman-là, c'est l'introduction, je sais pas comment le traduire en français, l'Inquisitorius, donc comme l'ordre des inquisiteurs, si on peut dire, qui sont comme des bras droits de Darth Vader, ou des ceux qui font la chasse aux Jedi pour Darth Vader et l'Empereur. Donc c'était intéressant de voir ce côté-là. C'était eux les vilains du troisième roman, comme Shizor était dans le premier, qui Aura Singh était dans le deuxième. Donc chaque roman a vraiment un vilain plus spécifique. On a toujours Dender, qui le Sulcien qui veut rejoindre son amour, justement la Holostar. Donc il y a encore son dilemme à lui. T'as Darth Vader qui cherche Jax Pavan, puis l'Holocron Sith, et puis un cristal. T'as le triangle amoureux entre Jax. T'as déjà, ça s'écrit pareil comme déjà, mais avec un H à la fin, qui est une Zeltron. Une Zeltron, c'est un alien qui est un peu comme les Fallen, comme Shizor, qui ont des phéromones, donc elle séduit facilement les personnes qui l'entourent. Et puis t'as la troisième personne du triangle amoureux, c'est la Twi'lek Larrant, qui elle aussi est sensible à la force, donc t'as un triangle amoureux là-dedans, et une trahison qu'on voit plus vers la fin. Et puis t'as la quête interminable de la race Elomine, la personne qui s'appelle Rinan, qui lui cherche absolument à obtenir du Bota. Bota, c'est une espèce de plante qui augmente la sensibilité à la force, qu'on découvre dans la série MedStar. Mais il y a un extrait qui reste, qui est caché par I-5, le droïde. Puis lui, il veut absolument expérimenter ça pour toucher à la force. Donc, il y a encore sa quête à lui. Et puis, t'as I-5, lui, qui a un plan pour assassiner Palpatine. Donc, tout tourne autour de ça. Le plan qu'ils ont pour s'approcher de Palpatine et de l'assassiner pendant une espèce de congrégation avec des sénateurs, etc. Donc, ça tourne tout autour de ça. Et il y a l'introduction d'un adolescent qui s'appelle Kajin Savoros, qui est extrêmement puissant dans la force. Quand je l'ai lu, j'ai dit, coudonc, est-ce que c'est le Starkiller dans The Force Unleashed qui est sous un autre nom? Parce que il était tellement puissant que ça avait aucun sens, là. Il désintégrait les gens juste en y pensant, là. C'était assez fou. Fait que j'ai dit, c'est peut-être, ils ont peut-être essayé de faire un lien. Puis en plus, vers la fin, on le voit qu'il est avec Palpatine puis Darth Vader. Fait que j'ai dit, peut-être que c'est un lien. C'est une version plus jeune qu'on voit Starkiller. Mais non, c'est pas lui du tout. Là. C'est simplement un autre Jedi. Il y a tellement de Jedi qui ont échappé à la purge. C'est absolument hallucinant. Mais maintenant qu'on le découvre, on était certain que la majorité était mort. Mais j'ai l'impression que c'est le contraire.
Il y a plus de vivants qu'on le croyait. Ouais. C'est justement un peu bizarre.
Et je sais pas si Henry t'a remarqué, il parle toujours, tu sais, il y a comme une espèce de entre guillemets, un train souterrain qu'il mentionne pour que les Jedi qui sont encore sur Coruscant puissent se sauver de la planète, une espèce de système underground, là, organisé par des rebelles, etc. Et puis, il mentionne toujours qu'ils veulent faire quitter une Togruten female, donc une femme Togruten avec des habiletés de la force. Là, je me suis dit, il la nommait jamais. Fait que là, moi, je me suis dit, coudonc, c'est-tu Ahsoka Tano qui parle? À chaque fois, il mentionne jamais son nom. C'est une Togruten female, donc une femme Togruten, qui mentionne pas son nom. Puis finalement, il réussit à la faire quitter Coruscant. Je me suis dit, est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont introduit par hasard ou ils ont introduit ça parce qu'ils savent un peu le qu'est-ce qu'ils veulent faire comme destiné à Ahsoka sans qu'on le sache. Ça serait une des preuves qu'elle serait pas morte, mais qu'elle serait restée sur Coruscant cachée à quelque part. Enfin.
Ou alors peut-être qu'ils parlent de tout simplement le Shakti, peut-être.
Ouais, ça peut être Shakti aussi, ouais, c'est vrai.
Dans Force Unleashed, vu qu'elle est plus sur Coruscant.
Mm-hmm. En effet. C'était un très bon point. Donc, ça peut être tout simplement un des deux.
Ça laisse les fans spéculer, encore
ouais,
une fois.
Exactement. Je suis le genre à spéculer puis à sortir des théories complètement improbables. Puis par rapport à la trilogie, ben en gros, la trilogie, qu'est-ce qu'elle démontre? En gros, c'est que bon, ça explore l'idée des droïdes, de leur place dans la société, leur sensibilité. Parce qu'on voit qu'I-5 a quand même des sentiments, puis c'est très étrange. Leur existence en tant qu'individu même, puis la liaison avec la force, parce qu'on voit qu'I-5 a été détecté dans la force, même si c'est un droïde, donc c'est très étrange. Ouais. Et puis, t'as aussi l'exploration des détails de chaque race, les physionomies, les psychologies, comment que chaque race, leur vue de la vie, leurs émotions, leurs coutumes. Donc, c'est vraiment une étude sur les espèces aussi en même temps. Donc mais j'ai été surpris parce que j'avais moins porté attention dans les deux premiers romans, mais j'ai porté plus attention à l'écriture dans celui-ci. Puis les descriptions que Michael Reeve écrit sont vraiment excellentes. J'ai été surpris quand même. Il y avait beaucoup de détails dans les descriptions, donc c'était excellent comme.
En plus, son style n'est pas trop compliqué à lire.
Mm-hmm. Exactement. C'est certain que qu'on connaît pas les personnages d'entrée, si quelqu'un commence par ces romans-là, il va être perdu un peu là, quand même. Mais ça se lit quand même bien, donc.
J'avais plus de mal avec la description de Stover, par contre.
Ouais. Ça, c'est une autre chose.
Alors, vous nous conseillez quel livre pour les débutants comme moi? Roman, pardon.
Roman? Ben, je veux dire, t'as le classique, toujours que la trilogie de Tron, là. Ouais, les premiers qui sont sortis. T'as toujours Shadow of the Empire, qui est les ombres de l'Empire, qui se passent entre l'épisode 5 et 6. Donc, c'est très clair. C'est des personnages qu'on connaît en majorité. T'as peut-être Tatooine Ghost, qui c'est les aventures de plus de Han Solo, Princesse Leia, qui se déroule elle revient dans le passé et elle découvre un journal de Shmi Skywalker. Donc, Leia apprend un peu sur son arrière-grand-mère, dans le fond. En tout cas, t'as des quelques romans. Je dirais les romans qui s'infiltrent entre les films, c'est eux qui sont les plus faciles, je dirais.
On peut lire aussi les X-Wing.
Ouais, la série X-Wing.
La série X-Wing est aussi peut être lue assez facilement, même pour un débutant.
Mm-hmm.
Sinon, il y a quelques petits livres que j'appelle un peu séparés, comme le livre sur l'étoile noire qui n'a pas vraiment de lien avec le reste. Peut très bien être lu comme ça, même les Darth Bane aussi peuvent être lus assez facilement parce que ça se passe loin dans le passé, donc on n'a pas de personnage, y a pas de personnage, on disait tiens qu'est-ce qui lui est arrivé avant.
Mm-hmm. Donc merci.
Il y a quelqu'un qui pose la série X-Wing.
Ouais.
X-Wing.
Ouais.
Il y a quelqu'un qui pose avec une exclamation. C'est X-Wing.
Ouais.
Oui.
Comme les chasseurs X-Wing qu'on voit dans
les Alix.
Ouais.
D'accord.
Donc merci. Merci Henri pour la chronique.
Il n'y a pas de problème.
Moi je vais terminer avec les news diverses, donc télé ou DVD, etc. Donc
juste avant que tu commences, moi je dois quitter.
D'accord. Ben merci beaucoup Jean-François pour ta chronique et ta participation.
On se revoit la prochaine fois.
Très avec grand plaisir. Okay.
Salut.
C'est une bonne fin de journée.
Donc, dans les nouvelles diverses, on a Family Guy qui va, on sait qu'il y a le spoof ou la parodie de l'Empire Contre-Attaque qui va s'appeler Something 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 Darkseid, qui est prévu sur la Fox en automne 2009. Mais maintenant, on a appris qu'il va avoir une version qui va parodier le retour du Jedi, qui devrait s'appeler The Great Muppet Caper. Donc, étrange comme nom. Et puis, il y a aussi des rumeurs que Seth MacFarlane aimerait bien faire la même chose avec Family Guy, mais dirigé au film, aux trois premiers films de Indiana Jones. Donc, ça pourrait être aussi intéressant.
J'imagine. Bah, MacFarlane, la licence Star Wars, ça fait un peu bizarre.
Non, non, c'est Seth MacFarlane qui est l'auteur de la série Family Guy.
Ah, c'est, d'accord.
C'est son nom de famille qui est la même que la série de Prodeur. C'est
pour ça. Moi, ce que j'ai remarqué depuis quelques temps, c'est que Star Wars a un peu plus d'humour et laissait un peu plus partir ses produits ou sa BD dans de l'humour qu'on n'avait peut-être pas au départ.
Ah, ben, il faut quand même, c'est ça. Je veux dire, c'est quand même Family Guy et Robot Chicken, c'est des émissions quand même relativement écoutées, beaucoup écoutées, donc, j'imagine que ça reste une bonne publicité, quand même.
D'accord. On existe encore. Regardez, on existe encore.
Ouais. Ben, parce que je dirais quand même la majorité des fans, depuis que les films sont terminés, sont retournés dans le placard, hein. Donc,
Je pense que ça ira mieux quand il y aura vraiment la série live.
Ouais, espérons-le. Deuxième nouvelle, sur le site de revision3.com, il y a une émission qui s'appelle System. Donc, S-Y-S-T-M, t'enlèves le E de système. Et puis, l'épisode 92 explique l'histoire des sabres laser dans Star Wars et comment recréer des sabres hero props, donc des répliques avec les mêmes matériaux de l'épisode 4. Ça dure une demi-heure, c'est vraiment excellent. Ils montrent comment faire les blasters originaux, quel morceau acheter.
Le lien.
Je vais envoyer ça dans le chat dans deux secondes. Il faut que vous vous dirigez à l'épisode 92.
Entre nous, il y a un océan, nous avons le temps.
Et voilà. Donc, c'est une émission, puis je veux dire, il parle justement des flashs, des anciens trucs flash qui enlevaient la coupole pour faire le sable laser,
Le Graflex,
exactement, etc. Puis il montre les différents modèles, puis que ça se trouve sur eBay.
Distribué par Kodak.
Etc. Donc, il parle toutes sortes de choses comme ça. Ça vaut la peine pour ceux qui connaissent pas vraiment. Comme moi, je suis pas un spécialiste dans les props du tout. Donc, moi, je trouvais ça intéressant, cette petite émission-là. Donc, c'est bien plaisant. Autre nouvelle, Fanboys. Donc, presque deux mois après la sortie officielle en salle aux États-Unis, ben, le film va sortir sur les écrans de trois grandes villes au Canada. Donc, Montréal, Toronto et Vancouver.
Ça ne m'intéresse pas si c'est pas en France.
Ah, mais c'est ça. Donc, au Canada, Montréal, Toronto et Vancouver. Donc, le film devrait être à l'affiche le 3 avril prochain sur les écrans canadiens.
En version canadienne?
Non, en anglais.
Oh là là.
Qu'est-ce qu'on fait si ça a marché aux États-Unis?
Si ça a marché.
Il continue
à mettre dans d'autres salles. À chaque semaine, il y a des nouvelles salles qui sont annoncées.
Pourtant, le DVD
était. C'est pas mal quand même.
Ouais.
Ouais. Pourtant, le DVD est déjà attendu pour mai prochain.
C'est ça, le 19 mai avec des commentaires, des extras, etc. Donc,
Ça continue à augmenter comme ça, on peut peut-être espérer que ça vienne en Europe.
Je pense que vous allez avoir accès au DVD avant que ça se rende en Europe. Peut-être, mais enfin. Peut-être qu'il va l'avoir en Angleterre, ou à moins qu'en France, vous ayez des cinémas qui passent beaucoup de films en anglais, peut-être. Mais
Sans VO, sans sous-titres, c'est rare quand même. Ouais.
En France, on a quand même un bon cinéma, donc c'est peut-être possible. Hein.
Mm-hmm. D'accord. Enfin, on va vous tenir au courant pour ce qui est de... il va probablement avoir seulement une salle à Montréal qui va l'avoir, probablement le AMC à Montréal, donc...
Salle, un jour, une projection.
Enfin.
Le dimanche à 23h52.
Mm-hmm. Ouais. C'est ça.
Ouais, c'est bizarre, ça a pas fait beaucoup d'entrées. Ah, après, on s'étonne. Hein. Mm-hmm.
Et puis, on va terminer la chronique avec... on a eu du nouveau sur la série live action, justement, qu'on parlait. En 2007, Lucas avait annoncé que il faisait une série animée en 3D, une série live action, etc. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles, puis tout d'un coup, MTV a sorti une actualité qui disait que l'actrice Rose Byrne, qui joue dans le film Knowing avec Nicolas Cage, elle avait mentionné que certains de ses amis avaient auditionné pour la série live action. Cependant, quelques heures plus tard, la nouvelle a été démentie par le site EW qui a confirmé, elle a demandé à un représentant de Lucasfilm.
Fils de bouche.
que oui, il y avait un agent de casting, qui faisait du travail préliminaire sur le terrain en Australie, mais que le casting officiel ne débutera pas avant que les scénarios soient complétés. Donc, au plus tôt, la série débuterait la production en 2010. Donc, la production, la pré-production, j'imagine. Donc, on n'est pas prêt de la voir, cette série-là.
On va tous crever.
Ouais. En tout cas, merci.
Je pense qu'on peut l'attendre. Chance, ils vont pouvoir péter tous les comics, toutes les séries qui ont été faites à cette époque-là. Ils attendent qu'il y ait un peu plus de contenu, histoire de tout péter, quoi.
C'est ça, mais c'est ça.
Pour s'en inspirer. Pour s'en inspirer, surtout.
T'sais, merci, Lucasfilm, d'avoir pété notre ballon.
Ça inspire, pareil que pour la guerre des clones, mais on est mal barré.
Oui, hein. C'est ça. Mm. Ben, c'est pour ça, je le dis.
C'est ça. Merci à Lucasfilm de péter notre ballon, parce que, je veux dire, la première news d'MTV, ça nous revivait un peu d'espoir, puis là, Lucasfilm vient de nous...
Ah oui, c'est vrai que ça change de Pick My Ride, hein.
C'est ça. T'sais, on était vraiment
je pense que vu si on regarde un petit peu les plannings, je pense qu'on peut on pourrait peut-être l'avoir sur les écrans en 2011, parce que depuis 99 on a du Star Wars tous les 3 ans. L'épisode 1 en 99. 2002 il y a eu l'épisode 2, 2005 il y a eu l'épisode 3, en 2008 on a eu Clone Wars et en 2011 la série live.
Ça ferait du sens.
Oui.
Quand même. Mais en 2011 la série Clone Wars ne sera pas terminée encore.
Ah, moi, je crois qu'ils avaient dit à une époque que les deux séries allaient cohabiter quelques temps ensemble.
D'accord.
Il y aura la 10e saison de The Clone Wars.
Mm-hmm. On va vu qu'ils ont prévu au moins 100 épisodes.
C'est ça.
On est parti au moins pour 5 saisons. Donc, de toute façon, on a pour au moins 4 ans encore de Clone Wars. Mm-hmm.
Mais qu'est-ce qu'on sait, justement, de la série live? On sait que c'est entre l'épisode 3 et 4. À part ça.
Ça sera en tout cas assez sombre.
Ouais.
Il y aurait pas de Jedi, il y aurait pas Dark Vador. Ce serait surtout sur des chasseurs de un truc de chasseurs de
prix. Ouais.
Ben c'est ça, il y avait le poster, l'affiche qu'il y avait quand ils avaient annoncé je pense à Comic-Con de San Diego en 2006. Il y avait une affiche que tu voyais il annonçait Dark Vader, puis il annonçait le 30e de Star Wars en 2007 et The Force Unleashed. Tu avais un Yoda animé qui était marqué 2008, la série Clone Wars animée, puis en 2009, c'était la série live action, t'avais un Boba Fett à côté. Donc, on peut soupçonner qu'il va y avoir des chasseurs de primes, peut-être même Boba Fett, mais...
Je crois qu'ils avaient dit aussi que ça serait un peu truc de famille, un peu comme les Sopranos, un peu comme ça.
Mm-hmm. Oh là là.
Je me souviens bien une époque.
Ça serait un peu lourd. J'aimerais mieux quelque chose dans le fond, qui montre comment que la rébellion elle a grandi dans le fond.
Ouais. Il réserve ça pour The Force Unleashed 2.
Ouais. Quelle gaffe.
Tu vas avoir mal à la tête avec tout le truc à la fin de la journée, hein.
Ouais. Enfin.
Parce qu'il faut que j'attende 2011. Waouh.
Enfin, moi, j'espère que les écrivains, j'espère qu'ils vont aller chercher des bons écrivains. Ben, c'est certain qu'ils annoncent que c'est George Lucas qui écrit la première saison, quelque chose comme ça qu'il disait. J'espère que ça ne sera pas le cas.
Je crois qu'ils donnent que les idées, parce que je crois qu'ils avaient engagé des scénaristes pour écrire.
Ben, ça doit être ce qu'ils font présentement aussi, hein. Ils devaient être en train de commencer l'écriture, là. Fait que, ce serait le fun qu'ils puissent nous annoncer c'est qui ont été choisis. Je sais qu'il y a quelques mois, il y avait des rumeurs qui courtisaient les scripteurs de Battlestar Galactica, de certaines séries américaines très populaires, Lost, etc., pour écrire la série.
Non, ça
live.
C'est pour Star Trek.
Non, non,
beaucoup, là.
Non, non, je le sais que c'est que celui de Lost a écrit a dirigé le film de Star Trek, là. Mais je me souviens jamais de son nom, là. Enfin.
J.J. Abrams.
Abrams, c'est ça. Exactement.
Mais que de Spock.
Mais enfin, j'espère que, je veux dire, graphiquement, ça va être révolutionnaire un peu, comme l'était la série 3D pour les dessins animés.
Je me rappelle d'un truc aussi. Ils ont dit que Lucas voudrait terminer entièrement une première saison avant de la proposer à une chaîne de télévision. Un peu comme ils ont fait un peu pour Clone Wars.
Mm-hmm. Mais est-ce qu'il y avait vraiment fini saison complète? Sûr
d'avoir au moins la première saison de diffuser.
De diffuser? Ouais. Ça veut dire qu'ils diffuseraient sur StarWars.com, ça, ou quelque chose comme ça?
Non. Non, non, je veux dire qu'ils vont essayer de terminer, de compléter une saison entière, ça que 22 épisodes, avant de chercher une chaîne de télévision sur laquelle diffuser.
D'accord.
Mais je pense qu'il veut faire ça pour être sûr d'avoir, de forcer une chaîne de télévision à diffuser une saison, au moins une saison entière, mm-hmm. pour être sûr de pas être coupé en plein milieu.
Ben, si je vois le succès de Clone Wars, j'ai l'impression que ça va être sur une chaîne spécialisée.
On parlait de Showtime, peut-être Showtime, ouais. peut-être HBO, trucs comme ça, je pense.
Enfin, au Canada, CTV a pris du retard.
Sûrement un truc payant, de toute façon.
Ouais. Ben, enfin, au Canada, la série Clone Wars, elle a repris à CTV, mais je crois que maintenant, les épisodes sont diffusés à l'avance sur Space, donc la chaîne science-fiction. Juste avant Battlestar Galactica, c'est comme c'est une des meilleures places pour la mettre.
Ouais, c'est
l'émission,
sûr.
Donc
surtout que ça dure 20 minutes, donc les gens tiens, ça dure 20 minutes, on va regarder ça en attendant Battlestar.
Ben c'est ça, donc c'est vraiment une bonne place horaire. Enfin, on sait pas, je veux dire, qu'est-ce que va être la technologie télévisuelle en 2011. J'espère qu'ils iront pas avec quelque chose qui est tellement récent comme la télé 3D par exemple, peu importe, que personne pourrait l'écouter, ça serait pas logique là. Mais mais enfin, j'espère qu'ils diffuseront pas sur StarWars.com parce que il y a certaines maintenant quand on essaie de voir les épisodes de Clone Wars par exemple ici au Canada, puis si vous l'essayez aussi de l'Europe, ça bloque. Parce qu'il marque, oh, vous n'êtes pas aux États-Unis, vous ne pouvez pas l'écouter. Donc, il y a comme, il vérifie les IP, donc il faut vraiment contourner par un autre système pour pouvoir les écouter du site officiel. Donc, c'est plate pour ça. Il y a plusieurs chaînes américaines qui ont ce système-là qui est pas très plaisant. Enfin, il y a toujours moyen de les trouver.
Oui, exactement.
Donc, on fait-tu quelques questions trivia?
Ouais. Ah, voilà.
Bon. Ça réveille l'autre, hein.
Ah, tu vas nous faire... moi, je veux entendre le son.
Ah oui.
Le son du bouquin, absolument.
Donc, on va montrer...
Oui, se réveille.
On va monter le bouquin à l'écran.
Sans ta binette.
Bah oui, mais moi, une fois qu'on a fini de parler des romans, je peux me réveiller.
Donc, on monte...
On vient de te saouler en même temps, hein.
On monte le roman qui est... Hein? Obsessed with Star Wars. Ben, c'est pas un roman, c'est un livre de trivia. Donc, on va sélectionner la question au hasard.
Madonna. Denis.
11:46.
Ne te trompe pas cette fois-ci.
Pour demander à Christophe Colomb.
Donc, ça se passe pendant Revenge of the Sith, cette question aussi. Qu'est-ce qui est carrié? Qu'est-ce qui est transporté dans un sac d'ammunition Wookiee? A. Des pellets, donc des pellets, des comme des plombs. B, des couteaux. C, des épines empoisonnées. Ou D, des capsules de gaz pour les blasters. A, des plombs. B, des couteaux. C, des espèces de pics empoisonnées. Ou D, capsules de gaz pour les blasters. Bon, dans le fond, c'est des recharges. Là, si on peut... Donc, A, B, C ou D. Qu'est-ce qui est transporté dans une espèce de truc d'ammunition là, pour les Wookiees, là. Fait que Raphaël, il dit A, hein.
Non, je dis A, parce que mon fils à côté de moi, je fais A, parce que mon fils vient sur moi, je fais A.
Ah, ben c'était D, des cartouches de gaz pour les blasters. Donc, on va aller à 2463.
Denis, il faut rappeler Louis, il est parti. On a perdu un joueur.
D'accord, 2463.
De retour.
Ouais.
Le retour de... C'est bien.
Oui.
Donc, on a trouvé la bonne réponse avec Henri, mais toi, t'as eu pas la bonne réponse.
Allô.
Donc, 2463. Ouais, on t'entend. 2463.
Exclu. Là, il est reparti.
Qui a dit
Mundi.
Qui a dit, et vous avez dit que c'était beau ici?
Danny.
Donc, ah, Luke Skywalker, ça c'est dans la période Return of the Jedi.
D'accord.
Vous aviez dit que c'était beau ici, donc A, Luke Skywalker, B, Princesse Leia, C, C-3PO, D, Han Solo.
C'est quoi la version anglaise de la phrase?
And you said it was pretty here.
Ah bah c'est C.
C-3PO?
Bah oui, parce que c'est C-3PO.
Et c'est C-3PO.
Ah, ouais.
C'est quand il dit ça à RD2-2, je pense.
Sur N2. Ouais, tu n'as pas vu les films.
46. Ouais, je pense que c'est ça sur Tatooine, ça se peut-tu? Mm. Non?
Non, mais dès qu'une phrase est construite, ça peut être un autre. Ça ne peut pas être un acteur, ça peut être qu'un robot.
Mm-hmm. Donc, les.
On peut être Louis, mais bon.
Donc, on dira à Louis que pour l'instant, Henri et moi, nous sommes en tête. Hein. Deux victoires, deux réponses justes.
Donc, Louis a encore débarqué. Donc, la question 46. Ça, c'est dans la période Phantom Menace.
C'est bon, on m'entend, là?
Ouais.
Oui.
Oui, on t'entend tout à l'heure. Je crois que ça déconne, là-bas. Hein.
Ouais, mmh. Ça doit être lui. Il vient de...
Il est reparti.
C'est ça.
Ouais.
Bon. Enfin, la question 46. Quelle est la grandeur de Qui-Gon Jinn?
A. Facile.
1,82 mètres. B. 1,93 mètres. C. 2,02 mètres. Ou D. 2,16 mètres.
Attends, je suis sur Wikipédia, attends, je triche.
Là, je vais pas tricher.
Comment tu dis? Moi, je dis A.
1,82.
Moi, je suis sûr que c'est le B, c'est 1,93.
Bon, il est grand quand même.
C'est pas A, ouais, c'est B.
Ouais, ah, il avait. Tu me disais qu'il était grand quand même. Ah bah, à l'égalité, comme ça.
12,59.
En fait, on tape les questions Wikipédia tout de suite pour avoir les réponses.
Mm-hmm. Donc, on va essayer de ramener Louis encore.
Oui. Il y aura des problèmes de micro parce que.
Ouais. Vous connaissez les rebelles de la galaxie de chez Henry?
Voilà, il paraît que vous m'entendez. Moi, c'est pas mon cas.
Ah oui, on t'entend.
Oui, parlez, t'entend. Allô.
Oui.
Oui, on t'entend.
Bon.
Allô.
Allô, maman, bobo.
Bon bah.
Question.
C'est le trivia qu'il aime pas.
Ouais. 1259. Ok, c'est de l'univers étendu, ça, là.
Ah, bah, je connais rien, j'ai entendu. Ah, bah, pas moi, je connais rien. Ah.
Qui, Darth Vader, a-t-il combattu sur la planète Marix Minor? A. Boba Fett. B. The Dark Woman. C. Aura Singh. Ou D. Prince Shizor? Qui Darth Vader a-t-il combattu sur Marix Minor, la planète?
Je sais que ça peut pas être D. Peut-être que je dirais peut-être le A.
Boba Fett?
Ouais.
Ah bah tu vois, je l'aurais pas dit. Moi, je prends la fille. La Lady Darth Vader, là.
C'est bien Boba Fett.
Ah,
oh, bravo.
Et Henri, bravo. Le gagnant ce mois-ci.
Bravo, Henri.
Ouais.
Trop tard pour Louis.
Je vais essayer de le réinviter.
Il demande de réessayer. D'accord. Il demande de réessayer. Ça va fonctionner après.
Et il
est rappelé. Félicitations.
Allô.
Allô.
Allô, Louis.
Ah, bah enfin.
Même on a terminé maintenant.
Jouable, on a terminé, Louis.
Hein. C'est allez, dommage qu'on ait terminé le trivia.
Ah non. Moi, je veux faire mes questions. Hein. Je veux mes questions, sinon je vote. Je retiens ma respiration jusqu'à ce que j'ai mes questions. Ça, il a fallu que je me partisse Death Trooper, ça. Donc, ça, je veux mes questions.
On va t'en faire une.
Allez,
au moins deux. On a le temps, non?
Oh, bah, on a deux heures.
Donc, 18h44.
Allez, Denis!
Donc, ça va être pour Louis seulement.
D'accord.
Ah, c'est toi, je suis la vedette.
Quelle couleur sont les yeux des Transdotion? A. Bleu. B. Vert. C. Orange. Ou D. Noir?
Eux, ils ont pas deux.
Orange.
Orange.
Oh. Pas moi.
Et c'est Orange.
Ouais, perdu.
Et ouais, je suis vraiment trop bon. Merci, public chéri. Allez, une petite deuxième pour le plaisir. Ouais.
Question 112. Ok, je pense que c'est de l'univers étendu, ça. Quel emploi le jeune Valorum avait sur la planète Vika Copia? Donc,
vous pouvez répéter la question.
Quelle planète le jeune Valorum avait sur la planète Vika Copia? Donc, A, un bailiff en français, j'en ai aucune idée. C'est quelqu'un dans une cour qui est une espèce de shérif. B,
d'accord.
B, c'est, voyons, un attorney, un avocat.
Un avocat?
C, un juge. Ou D, un officier de la sécurité.
Donc, je sais pas, officier de la sécurité, alors là, franchement...
On va essayer. J'aurais dit aussi.
A.
Et c'est pas un officier de la sécurité. C'était un juge. Donc, Valorum était un juge quand il était plus jeune, avant d'être chancelier. 1543.
Que personne ne sait, quoi.
Dans la page 496 du Manuel Jedi. Ah.
Du guide des Castors Junior Jedi.
Tu veux-tu une autre question? Si t'as celle-là, Louis, t'es vraiment excellent.
Vas-y.
C'est une question assez technique.
Si Louis trouve la réponse, on en a pendant un mois, là, après.
Il va trouver la grosse tête.
Quel droïde était capable de voir à travers la radiation, la brume, le sable, et qui a été reconstruit par les Jawa sur Tatooine, ok? A. Oui. Alien.
J'ai pas bien entendu la fin, là, parce qu'à cause de la connexion.
D'accord,
merde.
C'est... quel droïde est capable de voir à travers la radiation, la brume, le sable et la terre, et qui a été reconstruit ou... rénové par les Jawa sur Tatooine. Là, je vais te donner quatre modèles de droïdes et puis c'est des termes techniques. A. Alien Tredignon V7H. B. Alien 88B Tredignon 2. C. Alien Tredignon V8K. D. Alien 87B-2.
Attends.
C'est Y-C-15. C'est...
Non, non. Attends. C'est un diesel ou un essence?
Pardon?
Allez, je suis trop fort, alors je dis réponse B.
D.
C'est mon dernier mot.
Au hasard, j'aurais dit C, moi.
Moi, je dis A, et je prends pas 50-50, ni mon témoin de téléphone.
La réponse, c'est C.
Ah, j'aurais raison.
Et voilà, c'était Alien V8K.
Faudrait avoir le
seul
motus, là, quand on perd. Ah, on est en train de s'enfoncer, mais vraiment bas, quoi.
Et voilà, donc, sur ça, on va terminer l'émission. Donc,
il se termine ce motus Star Wars.
Ouais. Donc, merci à nos collaborateurs, donc Jean-François de Citlan.net, Raphaël de Mintinbox.net, Henri de CamilleWeb.com et Louis de StarWarsUniverse.com. Si vous avez des commentaires ou suggestions de sujets, laissez-nous le savoir par email à l'adresse studio@swendirect.com ou sur la boîte vocale Skype usagée SW en direct. Vous pouvez rejoindre le groupe Facebook de la version française de Star Wars en direct et suivre nos faits et gestes sur Twitter. Ne manquez pas Star Wars en direct édition Clone Wars les deux prochaines semaines. La prochaine édition sera consacrée à Liberty on Rylot et qui devrait être enregistrée d'ici quelques jours. Et une semaine plus tard, l'épisode sur Hostage Crisis. L'édition d'avril de Star Wars en direct sera consacrée à la saison 1 de la série Clone Wars et à Fate of the Jedi Outcast de Aaron Alston. Donc, salutations au nom de tous les participants. Joyeuse Pâques et bonne fin de la saison 1 de la série Télé Clone Wars. Merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars.